À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question du déluge. Il sera question de Saint Noé, dont c'est la fête. Oui, Saint Noé, on l'appelle comme ça dans bien des ouvrages. Surtout autrefois, quand on mettait saint devant les grands personnages de l'Ancien Testament, qui, à cause de leur vertu ou de leur caractère, justement, de sainteté, on les a appelés saints, comme on dit Saint David, le Saint Roi David. C'est aussi la fête de Saint Léon Ier, Saint Léon le Grand, un pape qui est né vers l'an 400. Et je vous en avais déjà parlé il y a 2 ans, le 10 novembre 1995, en même temps que je vous avais parlé du grand poète français Arthur Rimbaud, dont c'est aussi l'anniversaire du décès aujourd'hui. Saint Léon le Grand a sauvé au fond d'une catastrophe épouvantable la civilisation de son temps. Il y avait Attila, n'est-ce pas, le chef des Huns aux portes de Rome, et puis on l'appelait le fléau de Dieu, et puis il a su le retenir et sauver finalement la civilisation telle qu'on la connaissait à Rome et dans l'Église à cette époque. Or, Noé, c'est un peu la même chose. Noé, c'est qui? Vous le savez tous, je l'espère bien. C'est celui qui a sauvé l'humanité du déluge, nous raconte cette histoire admirable et très belle d'ailleurs dans la Bible, et on trouve ça dans la Bible, dans la Genèse. C'est un récit assez étonnant que le récit du déluge, qui veut nous faire connaître une espèce de rédemption ou de ce salut que Dieu accorde à l'humanité qui est tombée très bas dans le péché. Parce que le péché progresse à tel point dans le monde à cette époque, dit-on dans la Bible, que certains individus sont devenus extrêmement mauvais et que finalement toute la société est corrompue. Ça ressemble un peu à aujourd'hui, dans un sens. Et Dieu décide finalement, dans le récit du déluge, de cette espèce de vie de Noé, Dieu décide d'extirper le mal, de l'arracher. Mais il renonce pas à ce plan d'amour sur les hommes. Un peu contradictoire d'une certaine façon. Il va noyer presque toute l'humanité, sauf Noé et sa famille. Est-ce qu'il le fait? Non. C'est qu'il annonce que le phénomène va arriver, le drame va surgir, et il en profite pour révéler à Noé que le drame va surgir, que ce déluge va épouvantable, va détruire l'humanité, alors une humanité nouvelle va grandir, à partir de Noé, sauvé à bord de l'arche, c'est-à-dire un grand bateau à bord duquel il introduit ce qu'il y a de vivant sur la terre, des couples d'animaux pour faire survivre les animaux, qui sont coupables de rien, les pauvres. Alors, il a trouvé grâce, Noé, aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était juste. C'est pour ça qu'on peut l'appeler Saint Noé. Et dans sa miséricorde, dans sa bonté, Dieu conclut avec Noé et ses fils, ses enfants, une alliance. Une alliance, un mariage, si vous voulez. Un pacte d'amitié qu'il va renouveler souvent par la suite, qui va devenir, au cours des siècles, des millénaires, de plus en plus intime. Ça va aboutir à cette nouvelle alliance qui est réalisée dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, où l'intimité va jusqu'au point qu'il se fait notre nourriture et qu'il vit en nous avec le Père et l'Esprit, la Trinité nous habite. C'est une intimité, pour ainsi dire, totale, qui nous est donnée dans cette nouvelle alliance. Alors, on doit retenir du récit du déluge qu'il y a, d'après la tradition, des exigences nécessaires de justice de Dieu, en même temps que sa bonté et sa miséricorde infinie. Cette justice qui est plutôt terrible. Alors, parce qu'ils sont libres, les hommes peuvent toujours préférer, comme on le fait souvent aujourd'hui, leur plaisir égoïste à l'amour de Dieu. Et c'est là la source de tant de catastrophes individuelles aujourd'hui, autant de catastrophes, même collectives. Pensons au Rwanda, c'était terrible. C'était des chrétiens. Mais ils ont oublié si rapidement leur foi. Ils se sont entretués de façon tragique. Et nous, qu'avons-nous fait durant la dernière guerre, nous en Occident? C'est terrible. C'est terrible. Alors c'est... Le récit du déluge est un peu comme le récit du péché originel dans le fameux paradis terrestre. Faut pas nous arrêter à certains détails dans le récit du déluge, pas plus que dans le récit du péché originel. Ce qui importe, c'est quoi? C'est la signification religieuse de cette histoire qui peut être simplement une histoire, un mythe, une parabole, comme Jésus en a fait beaucoup de paraboles. On ne croit pas les détails des paraboles. On ne croit pas que ces personnages que Jésus invente ont vraiment existé. On sait que ce sont des contes. C'est un peu probablement la même chose ici. Quoi qu'il semble y avoir des traces d'une certaine inondation, d'un certain déluge, disent certains spécialistes. Et on sait que cette histoire vient d'anciennes légendes écrites ou qui datent d'avant la Bible. Donc, ce qui importe, je le répète, c'est la signification religieuse de cette histoire du déluge. C'est une leçon de portée éternelle. On peut toujours croire au déluge si on veut, qui aurait recouvert le globe terrestre en entier, c'est impensable. Alors, il y a d'autres analystes, on lit ça dans toutes sortes d'études que j'ai lues sur le déluge. On disait, il y a bien des siècles, que... Peut-être que le déluge n'a recouvert qu'une partie de la terre dans la région où était Noé. Et les chrétiens voient de toute façon dans l'arche de Noé une image de l'Église. Et c'est ça qui est intéressant à mon avis. Parce que ça permet aux hommes d'être sauvés que d'être à bord de l'arche de l'Église. Dans ce grand bateau dirigé par le vicaire de Jésus-Christ, celui qui le remplace, le pape. Mais cette Église a comme tête Jésus-Christ lui-même. Et pour entrer dans ce bateau, qu'est l'Église, évidemment, ça prend la foi d'abord, puis le baptême. C'est ce que Saint-Pierre nous dit dans sa première épître, d'ailleurs. Alors voici en résumé le récit de ce qu'on lit dans la Bible au sujet du déluge. Je vous en lis des extraits, des chapitres 6, 7 et 8 de la Genèse. Le Seigneur... vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. Et c'est très beau ce qui est dit après. Et il en eut le cœur affligé. Dieu a le cœur affligé devant tout ce mal. Et il dit, dans sa douleur, j'exterminerai, dit-il, de la surface de la terre, l'homme que j'ai créé, et avec l'homme, le bétail, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et le récit ajoute, mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et Dieu dit à Noé, fais-toi alors une arche, un grand bateau en bois résineux. Tu la diviseras, cette arche, en compartiments, et tu l'enduiras de bitume au-dedans et au-dehors. Car moi, je vais faire venir le déluge sur la terre, une inondation pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra, mais avec toi j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de tous les animaux, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, un mâle et une femelle, pour les conserver en vie avec toi. Noé se mit à l'œuvre et fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Le déluge vint sur la terre pendant 40 jours. Évidemment que les gens se moquaient de Noé qui se construisait ce grand bateau. On riait de lui, on voulait pas le prendre au sérieux, on voulait pas se convertir. Un peu comme le Noé actuel qui serait Jean-Paul II, qui dit à l'humanité que nous sommes pris devant un déluge et qu'il faut monter à bord de la barque et l'église, mais il y a beaucoup de gens qui se moquent de lui et qui ne veulent pas l'entendre. Alors voici encore le récit de la Bible. Le déluge vint sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Elles grossirent et montèrent abondamment sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. La crue augmenta de plus en plus, et les eaux couvrirent toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel. Elles dépassèrent de 15 coudées les montagnes qu'elles recouvraient. Toutes les créatures qui se mouvaient sur la terre périrent, les oiseaux, les animaux domestiques, les bêtes sauvages, tout ce qui rampe sur la terre ainsi que tous les hommes. Tout ce qui sur la terre était animé du souffle de vie périt. Ainsi furent exterminés tous les êtres qui se trouvaient à la face du sol, depuis les hommes jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Tous disparurent de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui se trouvait avec lui dans l'arche. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Puis Dieu fit souffler un vent sur la terre et les eaux se retirèrent progressivement. Alors, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, allant et venant jusqu'à ce que les eaux eussent séché au-dessus de la terre. Puis, il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. Mais la colombe, n'ayant pu trouver où se poser, revint vers lui dans l'arche, car il y avait encore de l'eau sur toute la surface du sol. Il tendit la main, la prit et fit rentrer cette belle colombe auprès de lui dans l'arche. Il attendit 7 autres jours. Puis Noé lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, elle revint auprès de lui. Et voici qu'elle tenait dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Et Noé comprit par là que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha de nouveau la colombe, mais cette fois, elle ne revint plus. Alors, Dieu s'adressant à Noé lui dit, « Sors de l'arche avec ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils, et les animaux de toute espèce qui sont avec toi. » Fais-les tous sortir afin qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y multiplient. Noé éleva un autel au Seigneur. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel pour rendre grâce à Dieu. Faisons une brève pause. Nous allons entendre d'Antonio Vivaldi, ce fameux compositeur prêtre, Tempesta di mare, la tempête de la mer. La suite du récit dans la Bible se lit comme suit en résumé. Puis Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Je prends vis-à-vis de vous cet engagement. Aucune créature ne sera plus détruite par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour désoler la terre. » Et Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je conclue avec vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour toutes les générations à venir, je mets mon arc-en-ciel dans les nuées, dans le ciel, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. » Je me souviens quand j'étais enfant, nous regardions les arcs-en-ciel et on pensait toujours à Noé, puis au déluge, et puis à cette alliance, et que c'était un signe de la bonté de Dieu à notre égard, car jamais plus il nous inonderait de cette façon-là. Nous étions bien jeunes, puis on chantait aussi, et il y a plus de 4000 ans, et puis on chantait c'est le grand-père Noé, et toutes sortes de chansons comme ça qu'on chantait quand j'étais jeune, qui avaient trait à l'Ancien Testament. Alors, pour ce qui est des fils de Noé, Noé était sorti de l'arche avec ses trois fils, Sem, Cam et Japhet. Un jour, Noé but du vin de la vigne qu'ils avaient planté ensemble. Alors, ayant bu du vin, il en fut ivre et se découvrit à l'intérieur de sa tente. Il avait ignoré la force du vin. Et Cam vit son père dans le sommeil de l'ivresse. Alors, il a appelé ses frères pour se moquer de leur père. Alors, eux, ils n'ont pas voulu regarder la honte de leur père qui était nu. Et ils ont été pleins de révérence pour lui, puis ils l'ont couvert de son manteau, se sont éloignés, mais à son réveil, Noé a maudit le mauvais fils et béni ses fils respectueux, ainsi que leur descendance. Dans un vieux livre qui date du début du 18e siècle, on dit que la sainteté de Noé était généralement reconnue par les auteurs sacrés de la Bible, hein, par tous les pères de l'Église aussi. Sa sainteté, comme je vous ai dit, pour ça je l'ai appelé Saint Noé au début de l'émission. Ces auteurs sacrés, ces pères de l'Église ont eu l'occasion de rendre témoignage du sentiment que l'Église a toujours eu à l'égard de Noé. Le prophète Ézéchiel l'a nommé, le grand prophète Ézéchiel, dont je vous ai déjà parlé, l'a nommé avec Job et Daniel, en exemple des saints personnages puis des amis de Dieu, les plus favorisés du Seigneur, les plus puissants auprès de lui pour intercéder en faveur des hommes. Vous avez vu, il avait intercédé, puis il a sauvé l'humanité. C'est ce que dit la Bible. Dans ce récit, plus ou moins mythique, on peut le prendre comme on veut. C'est Dieu lui-même qui parle, on peut dire, par la voix de ce prophète, pour dire que bien loin d'écouter ceux qui le prieraient pour les pécheurs endurcis et indignes de sa miséricorde, il n'exaucerait pas même ceux de ses intercesseurs pour lesquels il avait le plus de considération, à la tête desquels il met Noé, ajoutant que pour eux, il délivrerait toujours leurs âmes par leur propre justice. Et Noé, de son vivant, était donc l'intercesseur. C'est celui qui priait pour l'humanité, un peu comme Saint Léon le Grand, dont c'est la fête aujourd'hui, et tous ces saints qui prient pour l'humanité et qui font que l'humanité se change devant ces hommes quand on les voit faire, quand on les voit se tourner vers Dieu. C'est de ce côté-là qu'il faut se tourner, évidemment. Savez-vous que dans le Coran, le livre des musulmans, pour ne pas dire la Bible des musulmans, le Coran, la sourate 71 est entièrement consacrée à Noé. Et dans une introduction à cette sourate, je lis que le nom de Noé, puis on le lit d'ailleurs ailleurs dans des livres chrétiens, que ça signifie étymologiquement lamentation, pleurs et gémissements. Hein. C'est le saint Noé qui gémit, qui pleure, qui se lamente, et qui obtient finalement de Dieu miséricorde. Et c'est le surnom, donc, du patriarche, qu'on a surnommé Noé. Et c'est le surnom qu'on trouve partout, comme dans l'islam. Et le Coran considère Noé comme un prophète de Dieu, mais nous, on ne le considère pas exactement comme un prophète. Les sources musulmanes qui parlent de Noé sont en rapport étroit sur bien des points, avec les sources juives, en particulier avec la Genèse, évidemment. Mais les musulmans croient que leurs sources sont plus riches et plus intéressantes. En somme, lorsque du haut d'une colline Noé s'est mis à prêcher, à avertir d'un châtiment de les foules qui s'amusaient et qui dansaient et qui faisaient n'importe quoi, il a été pris à partie, Noé. On lui a objecté qu'il n'était qu'un individu sorti du peuple, que ses annonces étaient celles d'un imposteur, d'un possédé des démons. C'est ce que disent le Coran dans la sourate 54. Que si Dieu avait voulu dépêcher un avertisseur auprès des hommes, il aurait envoyé plutôt un ange et non pas une espèce de débile mental qui fréquentait les mendiants, les esclaves et ne trouvait de crédit finalement que dans ce qu'il y avait de plus ordinaire dans le peuple. Et au fond, les attitudes du peuple à l'égard de Noé sont les mêmes que celles que les attitudes à l'égard de Jésus, à l'égard de Mohammed, prétendent les musulmans. Il a donc été tourné en dérision, ce pauvre saint Noé. Il a été persécuté. Il a confessé l'échec de sa mission à Dieu qui voulait qu'il convertisse le monde. Dieu lui a annoncé le châtiment des impies. Il lui a ordonné, par l'entremise l'ange Gabriel, dit le Coran, de construire une arche. Nous, on sait que c'est Dieu lui-même, et de s'y réfugier aussi dans son arche avec les siens, comme on a vu. Puis il s'était mis à l'ouvrage, mais comme je vous ai dit, les concitoyens l'ont accablé de leur moquerie et de leur sarcasme, et c'est souvent ce qui arrive quand on veut sauver les gens autour de nous. Et durant le déluge, bien, l'arche de Noé, on s'y a flotté sur les eaux. C'est sur le mont Arara qu'on prétend que l'arche s'est arrêtée, en Arménie, et que les hommes et les bêtes sont descendus, se sont répandus de nouveau sur la terre. Et puis, quant à l'histoire du vin et de tout ça, c'est une façon de un peu raciste de développer des choses. Je préfère ne pas vous les raconter. Et on dit que Noé a vécu longtemps après le déluge, alors on parle de quantité d'années absolument insensées, n'est-ce pas, 350 ans après le déluge. Noé serait mort à l'âge de 950 ans, c'est ce qu'on lit dans la Genèse, dans la Bible. Et l'histoire donc légendaire de Noé a incité divers auteurs à chercher des éléments dans les légendes païennes, puis on a voulu la rapprocher de différentes légendes, de persanes, ou iraniennes si vous voulez. Et pourtant, on ne trouve pas toujours dans les traditions iraniennes la notion du déluge. On rapproche ça surtout d'une légende chaldéenne qui était écrite sur des tablettes, qui a été découverte en 1872, qui est conservée au British Museum d'ailleurs. Alors tout ça pour vous dire que cette histoire de la crainte de la perte de toute l'humanité à cause du mal qui sévit, ça a toujours été au cœur de l'homme, on voit toujours des cataclysmes. Mais aujourd'hui, on nous annonce souvent des cataclysmes qui vont détruire l'humanité, que le bras de Dieu, le bras vengeur, va tomber sur l'humanité. Alors, il y a des apparitions, des tas de livres là-dessus. Attention à toutes ces choses. Évidemment que il y a un grand combat qui se déroule dans l'humanité actuellement. Et nous sommes pris devant des choses extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Notre civilisation, c'est une civilisation athée et superficielle, dit quelqu'un. Qui a dit ça? Une civilisation athée et superficielle? Pensez-vous que c'est le pape qui a dit ça? Non. Pensez-vous que c'est un philosophe chrétien? Non. C'est le chef de l'État tchèque, Václav Havel. Au cours de la conférence Forum 2000, organisée à son initiative au château de Prague, il n'y a pas tellement longtemps. Václav Havel, je ne crois pas qu'il soit chrétien, même s'il est tchèque, mais il est de civilisation chrétienne. Il dit la civilisation contemporaine est par essence profondément athée. en fait la première civilisation athée de l'histoire humaine, pas en même temps la première civilisation qui englobe la planète tout entière. Eh bien, c'est dans un monde comme celui-là qu'on vit, c'est dans ce monde que vivait Saint Noé. Une nature athée, ajoute M. Havel, qui coïncide avec la poursuite exacerbée des intérêts individuels. Tout le monde poursuit des intérêts individuels, surtout les gens au pouvoir, dans les grands pouvoirs économiques. Et il ajoute, car notre civilisation est fondée sur la technique et sur son développement. Nous entrons dans une civilisation technique qui n'a pas d'âme. Il dit qu'elle est fondée, notre civilisation, sur les lois du marché et certaines valeurs matérielles, sur l'idéal de la croissance économique, de la production, de la consommation, ainsi que sur la dictature de la publicité. Mais j'aime bien ce que Vaclav Havel ajoute. Elle est athée parce qu'elle est exempte d'esprit et des sentiments de l'éternité. En somme, il y a une tempête terrible qui surgit dans l'humanité, sur l'humanité, contre l'humanité, et qui veut détruire au fond ce qu'il y a de plus précieux dans nos cœurs, dans nos âmes. Faut pas se faire d'illusions, hein. Nous sommes attaqués de toutes parts. Beaucoup d'entre nous y succombent et nous avons tous succombé d'une façon ou d'une autre, moi le premier. C'est terrible quand on y pense. On ne peut que demander pardon au Seigneur et se tourner vers lui, hein. Pour Vaclav Havel, la crise de responsabilité globale que nous vivons est due au fait que nous avons perdu la certitude que l'univers, la nature et nous-mêmes, nous sommes le produit d'une création guidée par une intention précise. Je vous en ai déjà parlé, hein. Cette intention précise que Dieu a. On serait mieux qualifié, me semble. Tout ce manque de transcendance, d'idéal qui nous affecte tous aujourd'hui dans cette époque contemporaine. L'observateur qui se veut attentif à l'évolution du monde se rend compte quotidiennement de tout ça. Il est toutefois, heureusement, il y a des sursauts dans l'humanité. Et toute une partie de l'histoire des hommes de ce temps est marquée du sceau de la spiritualité la plus pure. Et on le voit ici et là, je vous en parlerai tout à l'heure dans la prochaine demi-heure, après avoir entendu quelques notes de la musique de Vivaldi, Tempesta di Mare. Parler de décadence. Une pièce de théâtre, au théâtre de Catsou, Décadence, avec Monique Miller et Jean-Louis Millette. Et j'aime bien ce que Jean-Louis Millette dit à un moment donné, que dans cette pièce, l'important, c'est le sous-texte, ce qui est en dessous du texte. Il dit, c'est ce qui leur arrive finalement aux personnages, aux deux personnages, le fait qu'il n'y ait pas de rédemption possible pour eux parce que leur âme est vide. Ils se noient. Et c'est la grandeur de l'homme, au fond, qui s'effondre sur elle-même, dit l'auteur de l'article. Et Millette ajoute, elle est là la décadence, quand la femme dit, nous ne regardons jamais les prix et nous n'achetons que ce qui est beau. Hein. Cette décadence des riches qui n'ont pas de pitié des pauvres, qui dépensent des sommes fabuleuses pour des bagues et des diamants et des choses qui n'ont pas de sens. Décadence, cette pièce de théâtre aux quatre sous, montre donc deux membres de la classe dirigeante qui sont absolument infectes. Infectes. Qui, à la limite, nous forcent à critiquer et ces individus et l'État. C'est tout un système qui s'expose et s'enfonce devant nous dans la merde et la boue. C'est incroyable qu'on puisse présenter des pièces de théâtre pour nous montrer jusqu'à quel point nous sommes rendus dans la bêtise la plus totale quand on s'éloigne de tout. Mais comme dit le pape Jean-Paul II, les forces modernes du mal attaquent Dieu et la dignité humaine en s'en prenant la famille. Et c'est ça le déluge dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. La famille a de la misère à survivre. Seules les familles chrétiennes à bord de l'arche que l'Église arrive à se surpasser, ou quelques autres qui profitent de cet esprit qui vient de l'Église, même s'ils sont athées ou agnostiques, mais qui ont des âmes de chrétiens. En fait, le pape a déclaré à un congrès théologico-pastoral sur la vie familiale qui s'est déroulé à Rio de Janeiro au mois d'octobre dernier, et tout ça s'est déroulé autour de la famille et de la vie, mais il disait, s'il se déroule de nos jours un combat fondamental pour la dignité de l'homme, la communion conjugale, dit-il, n'est ni reconnue ni respectée. La dignité des époux est renversée. Et on prétend qu'il faut une diversité sexuelle qui serait nécessaire aux époux. Il faudrait aller passer du temps avec d'autres. Et la fidélité conjugale, dit le pape, et le respect pour la vie à toutes les étapes de son existence sont corrompus par une culture qui refuse de reconnaître la transcendance de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ça le grand drame de notre civilisation. C'est ce déluge dans lequel nous sommes. Le pape parle de bien des choses dans ce sens-là, et il demande aux prêtres de prendre encore plus conscience du fait que la pastorale familiale exige des agents soigneusement formés, ainsi que des structures adaptées puis actives. Il faut fonder toutes sortes de groupes pour les aider. Et à Radio Ville-Marie, nous avons des émissions où il est question de ces valeurs-là. Et le pape, en parlant à chaque famille de la terre, il dit « Écoute et vois, Dieu veut que tu sois belle, que tu vives la plénitude de la dignité humaine et de la sainteté du Christ, que tu sois au service de l'amour et de la vie. Tu es né du Créateur et a été sanctifié par le Paraclet, l'Esprit-Saint, afin de devenir l'espérance de toutes les nations, puisse ce service rendu à l'humanité révéler aux époux qu'une manifestation claire de la sainteté de leur mariage est bel et bien la joie avec laquelle ils accueillent et demandent au Seigneur des vocations parmi leurs enfants. » Oui, des vocations. On les annonce dans le journal Voir, je ne sais pas si vous avez vu ça, je vois ça depuis 2 semaines, des annonces d'une communauté religieuse de Québec. M. Barbet en a parlé d'ailleurs ce matin à Radio Ville-Marie. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui nous assaillent, des problèmes très très graves. Est-ce que bientôt, à cause de l'euthanasie, est-ce que nous aurons le devoir de mourir pour plaire à la société? C'est ce que se demande le cardinal bénédictin de Londres, George Basil Hume, ou George Basil Hume, H-U-M-E, se prononce Hume. Parce que, en Oregon, on accepte, finalement, le suicide assisté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on accepte que des gens débarrassent la place. Ça part pas de cette expression-là, ça part de la compassion à l'égard de gens qui souffrent trop, à leurs yeux, et aux yeux même du malade, et qui veut en finir. Et si on donne aux gens, finalement, le droit de mourir, ça ne peut que se transformer en devoir de mourir, hein, dit le cardinal Hume, alors qu'il est passé chez les bénédictins de l'Oregon, lui qui est bénédictin, n'est-ce pas? Il était un conférencier invité à une rencontre. C'est une perspective des plus effrayantes, c'est une affaire très très sérieuse. Je l'ai déjà entendu à la cathédrale de Westminster, c'est pas l'abbaye de Westminster, c'est la cathédrale catholique de Westminster à Londres, c'est un homme admirable, Il est cardinal archevêque de Londres depuis très longtemps. C'est un homme extraordinaire, profondément mystique et concret en même temps. Il a raconté qu'au cours de ses visites pastorales en Angleterre puis en Écosse, il avait perçu une anxiété croissante chez les personnes âgées et malades face à la possibilité de la légalisation du suicide assisté. Hein. Il dit, si vous demandez aux gens s'ils veulent qu'on mette fin à leur misère, seulement une ou deux personnes répondent oui. La nature humaine est ainsi faite. Elle exige que l'on s'accroche à la vie. C'est naturel, mais là, les gens vont sentir le besoin de mourir et vont sentir qu'ils sont de trop. Ils se suicideront simplement pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, débarrasser la place. Et on craindra de vivre, on craindra d'être malade et d'être un poids. Quand on est un poids, on permet, je le crois, à des gens d'exprimer toute leur tendresse et leur amour. Ça a été bien dit, Dieu, dans un article remarquable du docteur Ayoub. Je ne sais pas si vous avez lu cet article vraiment étonnant. Hein? Toute personne est une histoire sacrée. C'est paru dans la presse d'hier. En bas de page, les beaux articles, ça paraît à la page C4, en bas de page. Heureusement, c'est déjà quelque chose que ce soit publié. Parce qu'il veut répondre justement au député néo-démocrate fédéral Sven Robinson, qui est par ailleurs un homme fort intelligent. Parce que ce député demande de tenir un vote libre aux communes sur l'euthanasie et sur l'aide au suicide. Et ça relance tout le débat de notre société, la vie et la mort. Qu'est-ce qui pousse un patient avec une maladie avancée à demander l'aide au suicide, se demande le docteur Ayoub. Mais les deux raisons les plus invoquées sont la peur de souffrir, la crainte de perdre sa dignité. Or, un médecin moderne, qui est au courant des choses, possède actuellement les moyens de soulager la douleur physique. L'Organisation mondiale de la santé a même établi des lignes directrices qui comportent une espèce d'échelle d'analgésique ou de produits pour soulager la souffrance à trois niveaux. Malheureusement, chez plusieurs patients, dit le docteur Ayoub, la diminution de la douleur n'est pas ce qu'il pourrait ni ce qu'il devrait être. Alors, il y aura des progrès qui seront faits, on le sait. La médecine est toujours en progrès. Et pour le soulagement de la douleur, ça viendra. Et selon une étude menée auprès de responsables en santé publique de 32 pays, il y a des réticences à l'emploi de la morphine qui aide beaucoup. On a peur à l'accoutumance. Mais on peut croire que petit à petit, on en adviendra à l'écoute et le respect du malade, qui sont au centre de la philosophie des unités de soins palliatifs, où on s'occupe des malades, on les aide à passer à travers leurs souffrances. Et c'est extraordinaire ce que l'attention qu'on témoigne aux malades leur permet de renaître, de revivre, d'appartenir à la communauté finalement. Et ils ne se sentent plus de trop. Car seul l'amour, dit le docteur Ayoub, permet d'honorer la dignité de la personne. Mourir dans la dignité, comme on dit souvent, ça peut pas devenir un motif de légalisation d'euthanasie puis de l'aide au suicide. Toujours au nom de fausses théories, on veut tuer les enfants avant qu'ils naissent ou on veut tuer nos malades. On accepte avec tendresse le problème de M. Latimer qui a eu un geste dramatique en tuant sa fille. Et on a le cœur brisé à la pensée que cet homme a tant souffert parce que sa fille souffrait. Mais le geste qu'il a posé est inadmissible. Qu'est-ce qui va arriver alors à tous les enfants handicapés? Ils se sentiront dignes de mourir aux mains de leurs parents. On transperce le cœur de ces enfants handicapés. On transperce le cœur de tant de gens qui souffrent déjà terriblement en leur faisant croire qu'ils sont de trop. Si les gens qui sont comme ça sont de trop, comment se fait-il que le plus grand astronome américain, peut-être, est un paralysé cérébral?
qu'on peut comprendre difficilement, à moins qu'il parle avec ce nouvel appareil qu'il a, un appareil extraordinaire qui lui permet de se faire comprendre quand il parle. Jean Vanier, dans « Toute personne est une histoire sacrée », son dernier livre, dit bien que devant la souffrance, la maladie, la mort, la faiblesse, il peut y avoir le réveil à l'amour et à la compassion, comme il peut y avoir la fuite dans les idées puis les théories, et par le fait même dans l'endurcissement du cœur. Et c'est là le déluge dans lequel nous sommes plongés, l'endurcissement du cœur avec des théories de fausse compassion. Si nous osons, dit Jean Vanier, pénétrer dans le monde de la souffrance extérieure à nous, alors nous serons libérés de nos peurs et de nos besoins de fuir ailleurs. Nous deviendrons des porteurs d'espérance. C'est ainsi qu'on peut s'occuper des gens. Et moi, personnellement, quand je vois rue Sainte-Catherine, des jeunes gens qui sont peut-être même pas chrétiens, je ne sais pas s'ils le sont, qui portent souvent une queue de cheval, un anneau à l'oreille, et qui sont habillés très simplement, et qui sont assis sur le bord du trottoir, et qui entourent de leurs bras les épaules d'un pauvre itinérant, âgé de 60 ou 70 ans, qui est à moitié saoul, désespéré, et qui le console et qui essaie de l'amener à la maison du Père, je vois là le geste le plus noble, le plus grand, le plus merveilleux qu'on puisse poser peut-être dans notre société. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement bouleversant de voir ça. Mais il y a une autre chose dont je voudrais vous parler tout à l'heure. C'est ce qui est fait, bon je le dis en deux secondes, ce qui est fait aux émissions religieuses actuellement à Vidéotron. On les a chassés. Je suis abonné à Vidéotron depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'était Câble TV autrefois, nous avions de belles émissions religieuses, et bien il n'y en a plus. Vidéotron les a supprimées. Sous prétexte que ça n'intéresse personne. Parce que nous sommes entrés dans une civilisation de la technique, et que les choses techniques intéressent les gens, mais pas la religion. Invraisemblable, invraisemblable. Mais il y a aussi l'attaque qui est faite chez nous, par le gouvernement fédéral en la personne de M. Stéphane Dion, et par le gouvernement du Québec actuellement, c'est la suppression totale de l'école confessionnelle. Je trouve ça dramatique, terrible, et je voudrais vous en parler en quelques mots tout à l'heure, avec quelques mots aussi sur l'avortement. Nous écoutons maintenant Antonio Vivaldi dans « Tempesta di mare ». Je vous ai parlé tout à l'heure de Saint Noé, et je vous rappelle les paroles de Noé, les paroles de Dieu plutôt à Noé, et à ses fils. Voici que j'établis mon alliance avec vous, et avec votre descendance. C'est nous, ça. Ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, et je prends vis-à-vis de vous cet engagement. Aucune créature ne sera plus détruite par les eaux du déluge. Il faut avoir confiance, hein. Mais pour ce qui est de notre système d'enseignement, j'aime bien lire Gary Caldwell, qui est un Québécois qui parle très bien français, qui est protestant, et qui nous avertit bien qu'il deviendra illégal de préconiser ou d'enseigner une religion en particulier, ou d'observer des pratiques religieuses dans les écoles publiques. Bon, on peut bien accepter qu'il y ait des écoles de cette sorte, des écoles publiques, un réseau d'écoles publiques, mais qu'on nous garantisse aussi des écoles catholiques. Car autrement, où allons-nous envoyer nos enfants? Lui, Gary Caldwell, est membre de la Commission des États généraux sur l'éducation. Ce n'est pas n'importe qui. Il a clairement indiqué que c'est l'article 93 qui met l'école à l'abri de l'État. Car cet article garantit aux parents le droit à des écoles publiques confessionnelles. Les catholiques ne sont pas si stupides qu'ils ne veulent pas reconnaître le droit à ceux qui ne sont pas catholiques d'avoir des écoles purement françaises ou purement anglaises, un point c'est tout, sans religion. Ou avec une religion enseignée pendant une brève période ici et là, pour permettre à ceux qui veulent un enseignement religieux à l'école d'en avoir un dans ces écoles-là, à Montréal et à Québec, surtout à Montréal. Le problème se pose à Montréal quand dans le reste du Québec, la très grande majorité des parents, vous savez que c'est presque 85% des parents qui demandent l'enseignement religieux au Québec. Malgré toutes les assurances que donnent actuellement les politiciens, eh bien ce sociologue protestant qui est Gary Caldwell prévient en disant « Je puis vous assurer que le retrait de l'article 93 pour le Québec signifierait la fin de la transmission de l'héritage judéo-chrétien dans nos écoles. Il n'y aurait plus moyen de privilégier cette tradition religieuse qui nous a donné les libertés et les droits auxquels nous tenons tant. Or, nous avons un droit historique à un système scolaire d'inspiration chrétienne. » Et ce protestant, M. Caldwell, a signé un rapport dissident à la fin des États généraux, après avoir constaté qu'on ne faisait rien, dit-il, pour alléger le monopole de l'État, qui est la source du problème actuel dans l'éducation, et pour redonner à la société civile, y compris les parents, c'est-à-dire les pouvoirs autres que politiques et économiques, son emprise légitime sur l'école. Et il fait, il y a un détail très très important, et déjà, les écoles publiques laïques de l'Ontario vivent la situation qu'il prédit pour le Québec. Parce que eux autres, ils ont des écoles publiques puis des écoles religieuses. Dans les écoles publiques, il est maintenant illégal en Ontario d'observer Noël. Plus de Noël. Pourquoi? Ça porterait ombrage aux non-chrétiens. Ça ferait de la peine aux musulmans. Ça ferait de la peine aux juifs. Ça ferait de la peine aux athées, aux agnostiques. Ça ferait de la peine. Ça heurterait. Qui sont finalement minoritaires, mais à cause des minoritaires, il faut que la majorité cède. Mais évidemment qu'en Ontario, heureusement, les parents ontariens peuvent choisir l'école publique confessionnelle. Gary Caldwell dit qu'il est donc essentiel au Québec d'obtenir le maintien de cet article 93 nécessaire pour la survie des écoles confessionnelles catholiques et protestantes. Puis de mettre en place un secteur laïque, linguistique, ça on le concède, il est évident. Et la coexistence de ces deux systèmes, ça permettrait aux parents, aussi bien qu'aux professeurs, d'exercer un choix véritable. En envoyant leurs enfants, en enseignant dans les écoles, dont le projet éducatif correspond à leurs valeurs, ils vont envoyer leurs enfants là où leurs valeurs seront respectées, hein? Il faut lutter contre deux mythes véhiculés par le gouvernement fédéral et Stéphane Dion, puis par le gouvernement du Québec, en personne de Mme Marois en particulier. Il faut lutter. Il existe au Québec un très large consensus au sein de la population sur la nécessité d'un amendement à l'article 93, mais que cette modification constitutionnelle serait essentielle, disent-ils eux autres, à la mise en place des commissions scolaires linguistiques. C'est sûr, mais quand même, il me semble que nos gouvernements, qui prétendent qu'ils ne peuvent mettre en place des commissions scolaires linguistiques sans amender l'article 93, c'est pas vrai. Ils peuvent le faire simplement. Un regard sur l'expérience contemporaine des autres pays occidentaux, là. Ça nous montre qu'en favorisant la diversité au plan là, des institutions scolaires, quand on a différentes sortes des écoles différentes, on arrive à une meilleure éducation, à un meilleur prix d'ailleurs. Hein? Ce sont des choses qu'on devrait comprendre et que M. Stéphane Dion devrait comprendre, lui qui lutte tellement pour l'abolition des écoles catholiques. Je ne comprends rien à tout ce qui se passe de lutte comme ça, et nous ne disons presque rien. Mais il y a un printemps pour l'Église quand même, parce que d'innombrables petites pousses nouvelles qui surgissent ici et là, pour défendre les vraies valeurs, pour mettre les points sur les i, hein. Les bénéfices sociaux. Au départ, les bénéfices sociaux qui ont été mis en place pour venir en aide à ceux qui assument la responsabilité d'élever des enfants devraient s'agrandir. Et on devrait comprendre qu'élever des enfants dans notre société, c'est extrêmement important. Savez-vous que d'après les enquêtes les plus récentes sur le plan de l'avenir de nos pays d'Occident, même plusieurs de nos pays nous vont tomber sous la gouverne de l'islam. Les dernières statistiques montrent qu'en Angleterre, il y a un peu plus de 800 000 anglicans protestants sur les 38 millions de chrétiens en Angleterre. Mais il y a près de 600 000 musulmans qui pratiquent, soit plus de 21% de la population musulmane en Angleterre. Les mosquées sont ouvertes le vendredi, sont très achalandées. Puis les églises musulmanes, les églises anglicanes sont très peu fréquentées. On a le même problème en Autriche. On prétend que dans 50 ans, l'Autriche catholique sera musulmane en majorité. Qu'est-ce qui nous arrive ici? C'est un peu la même chose. Nous tuons nos enfants. Nous en tuons tellement que ça n'a plus de sens. Nous disparaissons petit à petit. Il y a des livres qui ont été publiés il y a bien longtemps. Le refus de la vie. Une analyse historique du présent par Pierre Chaunu, un penseur protestant, publié il y a déjà 20 ans et qui nous annonce ce qui survient actuellement. Heureusement, j'ai reçu une lettre de fillette de 15-16 ans qui dit bravo et merci pour votre émission. Longue vie à celle-ci et bien sûr à vous. Continuez votre beau travail. Vous nous donnez beaucoup d'espoir. Bravo pour vos émissions. Vous êtes un homme rempli d'espoir. Et continuez, ne lâchez surtout pas. Merci pour tout. C'est signé Marisa. C'est signé Fuang Vico. C'est signé Hélène, Marie-Hélène, Daphné, Catherine, Karine. C'est consolant. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ici et là.